Bonjour à tous et bienvenue dans Du vent dans les pages, la huitième émission. Toujours en compagnie de nos deux compères de lecture. Donc, Catherine, bonjour.
Bonjour, elle n'a pas osé dire commère.
Non, j'ai pas. Mais alors, ça, c'est intéressant comme réflexion, parce que c'est vrai qu'il y a certains mots mis au féminin.
Bah, ça le fait moins bien.
Hein. Ça le fait moins bien.
Bah, courtisan, courtisane, il y en a plein. Hein.
Oui. Oh.
Et Anne, bien sûr, bonjour Anne.
Bonjour Véro.
Alors, vous allez bien, vous êtes en forme pour faire des lectures.
Ah, toujours,
en veux-tu, en voilà. Et puis, et surtout qu'aujourd'hui, on a le temps parce que c'est uniquement consacré à la lecture, aux conseils, à vos coups de cœur. On va prendre le temps. Donc, je sais pas qui commence.
Ben, c'est moi.
Allez, paf. Allez, c'est toi.
Voilà. Alors, moi, je vais vous parler d'un livre qui... À vrai dire, je ne vous parle que de coups de cœur aujourd'hui. Le livre dont je vais vous parler s'appelle « Le goût des pépins de pommes ». Alors, l'auteur, c'est une Allemande qui a une cinquantaine d'années, qui s'appelle Katharina Agena, qui est professeure de littérature allemande et anglaise, puisque c'est une spécialiste de James Joyce. Alors, l'histoire se passe dans le nord de l'Allemagne, dans un petit bourg perdu dont on ne connaît même pas le nom. Et c'est une maison de famille. La partie centrale, en fait, c'est une maison de famille. La vieille Bertha, qui était en maison de retraite, vient de mourir avec la maladie d'Alzheimer. Et elle a légué d'une façon très limpide ses biens à ses trois filles et sa petite fille. Donc, Christa a les bijoux, Ariette a les papiers, Inga a les terres et Iris a la maison. Iris, c'est la fille de Christa. Elle a 30 ans, elle est documentaliste à l'université de Fribourg, totalement convertie à la vie en ville. Une maison à la campagne qui a appartenu à sa grand-mère, qui a été fermée depuis des années, puisque la grand-mère... elle ne reconnaissait plus personne, elle venait plus chez elle. Donc là, le livre se fait en deux parties. La première partie, c'est « Ah mon Dieu, qu'est-ce que j'ai bien pouvoir faire de cette maison ? Il va falloir la vendre. Oui, je vais la vendre. Mais si je la vends, il faut que je trie tout ce qu'il y a dedans pour m'en débarrasser. » Donc, elle commence à trier tout doucement parce qu'elle connaît quand même le coin. Quand elle était petite fille, elle venait en vacances chez sa grand-mère. Donc elle commence à trier les affaires, ça lui rappelle des souvenirs. Petit à petit, elle commence à se dire que finalement, ce serait dommage de se séparer de cette maison qui a un tel poids de souvenirs. Alors, la césure, c'est un commentaire que je vous lis. « Quelques années plus tôt, alors que ma grand-mère ne savait déjà plus qui j'étais, ma mère avait passé une quinzaine de jours chez elle. » Ce fut l'un de leurs derniers séjours ensemble dans la maison, car peu de temps après, Bertha devait être placée dans une maison de retraite médicalisée. Par une chaude après-midi, elles étaient toutes deux assises derrière la maison, dans le verger. Bertha posa soudain sur sa fille Christa un regard clair et pénétrant qu'on ne lui connaissait plus depuis bien longtemps, et lui déclara d'une voix ferme qu'Anna, s'agissant de pommes, avait toujours aimé par-dessus tout les boscopes. Et elle, en revanche, les coques oranges. Un peu comme si c'était là l'ultime secret qu'elle eut encore à révéler. Anna, c'était la sœur de Bertha. Anna aimait les boscopes, Bertha les coques oranges. En automne, les chevelures des deux sœurs exhalaient un parfum de pommes. Leurs vêtements et leurs mains également. Elles faisaient de la purée de pommes, du jus de pommes, de la gelée de pommes, à la cannelle. Et la plupart du temps, elles avaient des pommes dans les poches du tablier et une pomme entamée à la main. Bertha commença par croquer rapidement un large anneau autour du ventre de la pomme. Puis, elle grignotait prudemment le bas, autour de la fleur. Ensuite, le haut, entourant le pédoncule. Quant au cœur, elle le jetait au loin par-dessus son épaule. Anna, elle, mangeait lentement, consciencieusement, de bas en haut, tout. Les pépins, elle les mâchonnait durant des heures. Lorsque Bertha lui disait que les pépins étaient empoisonnés, Anna répliquait qu'ils avaient un goût de massepain. Elle ne recrachait que la queue. C'est Bertha qui m'a raconté cela un jour en constatant que je mangeais les pommes exactement comme elle. À l'en croire, c'était ainsi que la plupart des gens mangeaient les pommes. Et c'est en se souvenant de ce moment si particulier, si ancien, qu'elle a commencé à virer sa cutie, si l'on peut dire, et chercher de quelle façon elle allait pouvoir s'arranger pour garder la maison, y venir en vacances. Puis petit à petit, ben, finalement, documentaliste à Fribourg, etc., etc. L'amour venant, je ne vous raconte pas la suite. Voilà. Non, alors, ce livre est au livre de poche. Moi, j'ai trouvé délicieux, oui. Finalement. Ouais. C'est parfaitement expliqué, cette capacité à se retrouver par les parfums d'enfance. Et les vieilles maisons, les vieilles fringues dans les grandes armoires, etc. Et voilà, je vous conseille. Bon, Katharina Agena, Le goût des pépins de pommes. Ça a eu beaucoup de succès quand il est sorti.
Et il est sorti en poche.
Voilà.
Merci.
Bon, ben super.
Catherine, à ton honneur.
Alors moi, ça va être parfait parce que je vais rebondir sur les pépins de pommes.
Chouette.
En fait, je ne vais pas du tout vous parler d'un roman. Il faut bien changer de temps en temps. Je vais parler d'un livre dont les auditeurs de Studio ZEF ont déjà entendu parler, puisque l'auteur de ce livre, si je peux dire, l'auteuse, l'autrice, l'autaresse, l'hôtel,
n'importe qui vole pendant le premier,
a été invité à Studio ZEF. Alors, il s'agit...
Dans l'émission précédente.
Ah ben voilà. Donc il s'agit de Contre-champ, les paysans reprennent la main. Donc les textes sont d'Alice Hénaudot et les photographies, car il y a de très belles photographies, sont de Cyril Chigou. Et une préface de Philippe Bertrand, qui je pense pour eux a été une chose assez importante.
C'est pas mal.
Voilà. Eh bien, pour vous dire la vérité, j'ai fait partie des gens, puisqu'elle l'avait dit, qui ont souscrit. Comme ça, parce que j'aime bien Alice, pour lui faire plaisir, mais sans idée particulière. Et puis, quand je l'ai récupéré, que j'ai commencé à lire en me disant, bon, on verra, c'est des témoignages, je connais pas grand-chose, moi, à l'agriculture. Eh bien, j'ai lu ça comme un roman, ça m'a passionnée. À la fois, c'est une lecture passionnante, c'est quelque chose qui nous touche, puisque c'est une histoire de proximité. Et en plus, bravo Alice, parce que, j'allais dire, ça se lit comme on regarderait un documentaire au cinéma. C'est-à-dire que c'est vivant, on voit les gens, on entend les gens parler. Alors, il s'agit de quoi ? En fait, majoritairement, il s'agit de témoignages de paysans, de gens, d'hommes, de femmes, qui décident de travailler la terre, d'élever des bêtes, mais avec un état d'esprit, je dirais, complètement différent de ce qu'on appelle l'agriculture conventionnelle, etc., ou l'élevage conventionnel. Alors, on commence à en entendre pas mal parler, mais ce que je trouve bien, c'est que c'est pas le côté tout est beau, les petits oiseaux chantent, même si vous êtes cadre financier avec un beau costume, vous devenez paysan et tout marche. Non, les gens témoignent, racontent leurs difficultés, c'est pas facile, mais tout le long de ces témoignages, on voit à quel point c'est une histoire humaine avant tout. C'est-à-dire que ce sont des gens qui ont envie que leur vie ait un sens. Et à la fois que leur vie ait un sens, alors c'est la terre, c'est créer quelque chose qui va pouvoir nourrir les concitoyens, mais c'est aussi une histoire de sociabilité, de relation avec les gens. Certains font revivre des villages. Enfin, il y a vraiment toute une démarche. Et alors, je ne sais pas combien ils ont essayé de contacter de gens comme ça, mais dans les témoignages, je trouve que c'est très bien équilibré. Vous avez vous avez de tout. Vous avez des gens qui ont cultivé en conventionnel et puis à tout d'un coup, à 50 ans, se disent « Mais c'est quoi cette vie de dingue où je fais de la nourriture ?» En fin de compte, je ne sais pas où va ce que je cultive. On est en train de me dire que je suis en train de tuer la terre. Je passe ma vie endettée parce qu'il faut toujours plus, toujours plus. D'autres, il y en a une qui témoigne « Avant de venir au sud d'Orléans cultiver des arbres fruitiers, elle était conservateur du musée de Coutances en Normandie. » Donc, une sacrée différence. Un autre, ses grands-parents, parents étaient donc cultivateurs, éleveurs, en conventionnel. Et quand il a annoncé qu'il voulait faire du bio, déjà, les parents ont dit « Mais tu crèveras la faim, c'est même pas la peine. » Et faire du bio dans l'élevage, mais bon, ils ont accepté ça, mais au minimum, il faut une quarantaine, cinquantaine de bêtes. Hein. Et lui, il a dit « Oui, mais moi, je vais le faire avec 15 bêtes ou 14 bêtes. » Donc, tout le monde savait qu'il allait se casser la figure. Donc, c'est toute cette démarche avec aussi, pour la plupart, sauf les tout jeunes, une formation qui leur a jamais appris ça. Parce que dans les lycées agricoles, on apprenait le conventionnel. La chimie était là, tout était normal. Il n'y a que maintenant qu'il y a vraiment une sensibilisation à cette nouvelle façon de cultiver. Et puis on pourrait se dire, ah ben oui, mais c'est gentil, c'est l'histoire de bio, locavore, c'est bien un truc de bobo, il faut bien nourrir les grandes villes, les gens qui n'ont pas d'argent. Mais on découvre aussi des choses étonnantes, c'est-à-dire que, il faudrait que je vous retrouve, parce que j'ai noté plein de paragraphes, il faut que je les retrouve, mais il y en a qui témoignent en disant, c'est sûr qu'on ne gagne peut-être pas beaucoup, mais avant, peut-être qu'on gagnait plus, mais on dépensait tellement plus, que en fait, avec ce système, on peut se dégager un peu plus d'argent, en fait. Parce que vous n'avez pas besoin d'acheter les engrais machin, etc. Vous n'avez pas besoin d'acheter les produits chimiques qui vont tuer les petites herbes qui fait que ça. Vous n'avez pas besoin d'acheter les semences industrielles qui sont créées pour... faire appel à tel ou tel produit chimique pour, etc. Donc, tout d'un coup, il y a une sorte de... Enfin, ce que je trouve extraordinaire, c'est que tout d'un coup, ça ferait rire, j'allais dire, des personnes âgées, dans le sens où on revient à l'ancienne façon de cultiver, comme si on redécouvrait quelque chose. Mmh. Et je trouve ça... Alors, en plus, au milieu de ces témoignages, c'est quand même tout à fait sérieusement fait, puisqu'il y a des chiffres précis sur la production, sur... enfin, alors, ce qui est intéressant, alors je pense, il faudrait demander ça à Alice, parce que peut-être qu'elle le sait, enfin, j'imagine... Ce livre ne concerne, tous les témoignages sont de la région centre. Donc, on se sent directement concerné. Dedans, on parle des jardins de Concagne, on parle enfin, de gens qu'on peut côtoyer. J'imagine que ça existe à peu près dans toutes les régions. Mais il y a des chiffres très précis qui s'appuient, qui nous donnent des éléments. Ce n'est pas simplement un ressenti.
Alors, je peux demander de poser une question. Oui,
bien sûr. Anne.
Est-ce qu'on dit quelle est la proportion d'agriculteurs qui suivent
Pour le moment, elle n'est pas
parce
énorme.
Parce que toutes les émissions qu'on voit ou les choses qu'on lit sont là pour promouvoir cette nouvelle façon de penser. Mais on ne dit pas quelle est la proportion, si c'est 5%, 10%, 15% sur la totalité des agriculteurs.
Alors peut-être, je ne sais pas tout par cœur, là, peut-être... Alice, qui connaît ses chiffres par cœur, aurait mieux répondu. Mmh. Mais je veux dire, c'est encore une minorité. Il n'y a aucun doute. Et puis, il y a aussi des gens qui sont dans le conventionnel. Vous prenez la Beauce, par exemple. Ils n'arrivent même pas à imaginer qu'ils puissent changer. Mmh. D'abord parce qu'il y a plusieurs années avant de pouvoir être connu comme bio, par exemple. Enfin, c'est pas si facile que ça. Quoi.
Mmh.
Et la pression est terrible. Et puis, ils ont investi dans des machines. Parce qu'on voit que... j'aimerais bien vous lire quelques extraits pour voir un peu l'état d'esprit. Il faut que je retrouve les bons. Alors, je pense que celui-ci... Ah oui, c'est celui qui, avec ses 15 vaches, personne n'y croit à ses 15 vaches. Donc, lorsque Samuel a quitté le GAEC familial en 2008, il gagnait 800 euros par mois. Aujourd'hui, après 10 ans d'activité, le couple se verse un salaire de 3000 euros à deux et compte un salarié à temps plein depuis 2016, année de l'intégration des terres à asperges. Parce qu'en fait, ils commencent par une chose, puis après, ils font... bien sûr, ils ont l'élevage, donc il faut qu'ils aient de l'herbe. Donc, il y a des hectares dédiés à l'herbe. Puis, ils commencent à faire d'autres choses. Et en fin de compte, c'est cette richesse, cette variété, cette diversité qui fait que s'il y a une mauvaise année, ben, ils peuvent tenir aussi le coup. Alors que celui qui a une monoculture, s'il y a un problème dans la monoculture, c'est vrai qu'il n'a aucun recours. Alors qu'il avait tout investi dans la ferme, embaucher pouvait présenter un risque. Mais tous deux savaient que leur modèle économique basé sur la transformation nécessitait un lourd investissement dont le retour serait visible à long terme. Et puis, ils ne voulaient pas sacrifier toute leur vie à la ferme et passer à côté de leurs 4 enfants. Surtout, leur modèle s'inscrit dans une logique de création d'emplois au sein d'une ancienne région industrielle sinistrée où la désertification rurale sévit, où les agriculteurs sont en voie de disparition. Embaucher, ça nous a fait plaisir, d'autant que c'était le premier CDI de notre salarié. Bien sûr, on aurait pu avoir plus d'argent sans la recruter. Et puis après, on en aurait fait quoi ? Embaucher, ça participe d'une forme de sens. Il y a une dimension sociale dans tout ça. Alors, je me suis trompée, ce n'est pas celui avec ses 15 vaches, d'ailleurs.
C'est intéressant quand même.
Hein. Oui, mais ils sont tous. Voilà, la filière, par exemple, la filière agricole bio, en France, il y a 6,5%. Enfin, ça, c'était fin 2007. 6,5% de terres certifiées bio en 2007. Donc, c'est quand même pas lourd. Hein.
Il faudrait voir de combien ça a augmenté
alors,
aujourd'hui.
Voilà. Mais elle donne vraiment des tas de chiffres. Il y a des tas de tableaux comme ça. Ah oui, il y a l'histoire des semences, parce que même quand on n'est pas dans le coup, c'est aberrant l'histoire des semences. Depuis 1960, les semences agricoles doivent être inscrites au catalogue officiel des espèces et variétés qui relèvent du ministère, c'est pas le privé, hein, en charge de l'agriculture, pour être certifiées et commercialisées en France. Alors, le catalogue, il est gros quand même, vous dites, il y a du choix. Or, le cahier des charges conçu pour l'industrie agroalimentaire et l'agriculture conventionnelle impose comme préalable les notions d'homogénéité, de stabilité pour commercialiser une nouvelle semence. C'est-à-dire, faut standardiser. C'est-à-dire, votre semence, il faut qu'elle aille partout. Et ces paysans, ils prouvent l'inverse. C'est-à-dire qu'une semence qui va partout, va nulle part. Une semence, elle s'adapte à sa terre. Et quand vous récupérez, c'est le principe des semences paysannes, ce que vous avez cultivé va redonner des semences, vos semences, elles évoluent. Mm-hmm. Si votre terre est plutôt sèche ou plutôt très arrosée, elle va évoluer différemment. Donc, c'est passionnant de voir ce travail. Et puis, c'est surtout la diversité. Le principe de l'agro-industriel, c'est on en fait peu, comme ça, on les gère bien. Si possible, on les fait stériles, comme ça, ils sont obligés de nous les racheter. Chaque année, c'est-à-dire que l'agriculteur est complètement dépendant des vendeurs. Et en plus, si vous n'achetez pas le produit qui va avec, ça ne va pas marcher. Donc, 75% de la biodiversité cultivée a disparu en 50 ans. Alors, il faut aussi dire que même si vous avez fait une jolie semence et que vous voulez la mettre au catalogue pour être reconnu, puisque vous êtes un hors-la-loi sinon, le coût de l'inscription au catalogue, c'est entre 6 000 et 15 000 euros par variété. Voilà. Donc, ça limite l'exercice aux grands semenciers industriels. Donc, c'est tout comme ça. Donc, c'est quand même... on en apprend beaucoup. Et puis, voilà, un autre, je ne sais pas si j'ai le temps.
Oui, oui.
À 40 ans, temps, Sébastien Bory a troqué sa vie de cadre tourangeau contre un élevage de chèvres en Touraine. Vous dites, ah, c'est encore le bobo, comme autrefois dans les années 68, après, où ils sont tous mis à élever des moutons en Lozère, ou je ne sais pas quoi. Grâce à Terre de Lien, qui est une association que peut-être vous connaissez, qui aide justement ces jeunes futurs agriculteurs à acquérir leur première terre, parce que ce n'est pas évident quand vous n'êtes pas fils d'agriculteur. Alors, le jeune cadre n'était peut-être pas du tout fils d'agriculteur. Il a pu acquérir le foncier nécessaire et lancer sa ferme avec sa compagne, dans une optique de diversification, produits caprins, ferme pédagogique et plus récemment, plantes aromatiques et médicinales. Dans cette ferme, d'où toute vie humaine avait disparu, Claire et Sébastien ont recréé un écosystème vivant. Voilà, mais vous avez celui qui fait son blé, mais il ne fait pas que du blé. C'est-à-dire, s'il fait du blé, il fait la farine. Et l'idée, c'est de faire son pain. C'est-à-dire, tout d'un coup, ils veulent maîtriser la chaîne complète. Et ce qui est intéressant, c'est que dans beaucoup de ces témoignages, beaucoup en arrivent à créer un magasin. Alors, pas tout seul, parce qu'ils ne vont pas vendre que leur pain, mais ils se retrouvent avec d'autres. Et puis, ils font des magasins. Alors, ça peut être un magasin à la ferme. Ça peut être un magasin, on en a un à Saint-Gervais, donc ce n'est pas dur. Ça s'appelle la ferme. C'est des producteurs locaux qui se sont regroupés. Ça peut être dans des petits villages où il y a des témoignages, où il y a des villages où il n'y avait plus de commerce et tout d'un coup, il y a un commerce. C'est-à-dire que ce commerce, c'est plus qu'un commerce. C'est là où les gens se retrouvent, on parle. Et puis celui qui a cultivé, il voit la réaction des gens qui achètent ces produits et qui les mangent ou qui les boivent quand c'est du lait, etc. Donc c'est une façon aussi de redynamiser les campagnes. C'est aussi créer des débouchés, créer de l'emploi. On l'a vu dans le témoignage, c'est ça l'idée. C'est sûr que si vous enlevez toutes ces machines, il faudra un peu plus d'humains que si c'est toutes les machines qui labourent tout, qui retournent tout, qui arrachent les mauvaises herbes, qui arrachent tout d'ailleurs, et qui tue toutes les petites bêtes. Donc, il y a vraiment... C'est pas un conte de fées, c'est réaliste, c'est dopant. C'est dopant. Vraiment, moi, je conseille cette lecture à tout le monde, même si on n'y connaît pas grand-chose, parce qu'on se rend compte que quand on a une volonté de faire, une envie, pas facile du tout, mais quand on a ce moteur, cette envie des autres aussi, du vrai, de tout ça, il faut se battre, mais ça fonctionne. Donc franchement, je ne vais pas dire que ça se lit comme un roman, mais un peu, un roman de proximité. Ouais. Alors, est-ce que je vous ai dit tout ce qui est important? C'est surtout... Alors, tout le monde n'est pas dans le bio pur. C'est aussi parce que le bio, il faut s'en méfier. Ouais. Il y a du bio qui n'est pas bon. Hein. On voit du bio quasi industriel maintenant. Donc, il faut se méfier aussi. L'idée, c'est, on parle beaucoup de locavore, mais c'est vrai aussi que si on veut avoir des idées un peu écologiques, si vous achetez, des kiwis bio qui viennent d'Argentine, le côté écologique... Donc, c'est vrai qu'il faut apprendre à manger les légumes de saison, qu'il faut savoir qu'à un moment, les poules, elles vont plus pondre d'œufs, on aura moins d'œufs, qu'il faut, faut revivre. Et c'est quand même pas une contrainte catastrophique.
Alors, est-ce que les témoignages qu'on trouve dans ce livre sont des témoignages de gens qui s'installent récemment ? C'est pas des fils ou des filles d'agriculteurs
à
l'origine ?
Alors, t'as tout.
Il y a un peu de tout, c'est un mélange.
De retrouver. Alors, j'ai bien tout marqué, mais alors, c'est un peu...
Oui, c'est j'allais dire. 15 vaches, c'est un fils de...
Oui, lui, par exemple, c'est vraiment un petit-fils et fils d'eux. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est pour ça que j'aimerais bien vous le retrouver sur les 15 vaches, parce que ce qui est intéressant dans son témoignage, je ne vais pas le retrouver, c'est qu'il dit « je voulais refaire comme mes grands-mères ». Et alors, en plus, il y a une phrase très chouette, ça m'énerve de ne pas le retrouver, où il dit « mes grands-mères qui faisaient tout et qui avaient l'air de rien faire ». C'est-à-dire que c'est toujours les hommes qui travaillaient, mais en fait, c'est elles qui faisaient tout dans la ferme. Mais il y avait ce côté, et il voulait retrouver ces gestes-là. Ouais. Ces gestes d'élevage, de... Voilà. Et il dit même, il a ses 15 vaches. Ça m'énerve de ne pas vous le retrouver. Il a ses 15 vaches.
T'énerve pas et retrouve-le nous.
Elles sont... Il a ses 15 vaches, mais elles sont bien nourries, avec une herbe. Même l'herbe, la façon de... Quand vous mettez la bête au champ, moi, j'y connais rien, mais selon la hauteur de l'herbe, c'est pas la même nourriture. Enfin, il y a toute une façon. Donc, si l'herbe est plus riche, et le lait est meilleur. Et puis, ces bêtes, elles sont pas malades. Elles sont pas malades, elles n'ont pas besoin d'être bourrées d'antibiotiques et de trucs. C'est-à-dire qu'elles ont une vie saine, elles sont pas malades. Donc, il y a d'une certaine façon un meilleur rendement, même si elles donnent beaucoup moins de lait que si on va à la ferme des 1000 vaches, où là, ce sont des bêtes à faire du lait, c'est monstrueux. Quoi. C'est des usines, ces vaches-là. Ben, lui, il en a moins, mais il est de qualité. Donc, il y a une sorte de bien-être aussi. Et puis, tu avais posé une... Ah oui, mais alors, peut y avoir des exemples. Alors celui-là, il était fils de conventionnel, tout le monde se moquait de lui. Mais on a des exemples. Alors tout près de chez nous, ça doit être le dernier dans ce truc-là, mais que vous connaissez peut-être, parce que à force d'être à Blois, on commence à être au courant
c'est vrai,
de beaucoup
parce
de choses.
Oui, tout à
et
fait.
Et c'est quelqu'un que vous connaissez bien. Donc c'était des pionniers, c'est la Guilbardière.
Ah, oui.
La Guilbardière, même ceux qui ne sont pas des fans de la Biocoop, on trouve même leur lait et leur fromage blanc à Auchan, je crois. Donc, c'est pour dire qu'ils ne sont pas...
Je ne sais pas, mais...
En le lait, en tout cas, parce que c'est le seul lait cru qui est proposé. Eh bien, eux, ça fait... ils sont installés depuis 1986. Alors, à l'époque, c'était sûrement les originaux de service, complètement à côté de la plaque. Et puis, ils sont accrochés avec leur idée. Et ils sont toujours là. Mais même s'ils ne cachent pas que ça a été très dur à l'époque. Mais ils sont toujours là. Donc, ils font leur lait, ils font leur fromage blanc, ils font leur crème. Moi, je me souviens, quand on allait à la MAP, on avait leurs produits. Mais on peut les trouver maintenant, évidemment, en Biocoop ou autre. Mais je vous dis, je crois bien que grande surface type Auchan, ils arrivent à les vendre aussi. Donc, il y a des gens qui sont là depuis longtemps en bio. D'autres, ils se sont reconvertis d'un coup parce qu'ils ont peut-être été... troublés parce que leurs parents utilisaient tous ces produits où il y avait des têtes de mort. Il y en a un qui dit, moi, je ne voulais plus utiliser ces trucs, il y a des têtes de mort partout. Est-ce que c'est ça?
Tout à fait.
Et puis, il y a ceux qui étaient cadres, conservateurs de musées, enfin, il y a de tout. Donc, je trouve que c'est vraiment revigorant, passionnant, on apprend beaucoup de choses sur la terre. Et puis, je pense que ça enlève des idées fausses qu'on a, du genre le bio ça produit pas grand chose, c'est gentil mais c'est de la rigolade, c'est du bricolage, mais ils vont pas nourrir les gens avec ça, parce qu'on se rend compte que d'abord
il y a de plus en plus de demandes de toute façon,
mais il faut aussi que ce soit possible.
Oui.
Mais c'est un petit peu comme si je prends un exemple, c'est comme si on prenait les centrales nucléaires, on dit grâce à ça en France l'électricité était pas chère, mais est-ce que on avait mis dans le prix de l'électricité le fait qu'un jour il fallait les démanteler, et ça c'est une fortune. Et c'est un peu la même chose si on compte tout dans cette agriculture, les gens qui cultivent de façon intensive, est-ce qu'ils englobent dans le prix le fait que leur terre va mourir, que bientôt il n'y aura plus rien. Donc si on compte tout, Mais voilà. Alors, il y a sûrement des critiques, des choses, mais c'est quand même... voilà.
Bah, comme tu disais, ce n'est pas non plus, des portraits où tout va bien.
Ah non, non, non.
Des mondes.
Ah non, non, il y en a qui disent...
Une lecture objective.
Il y en a une, oui, celle qui s'occupe de ces arbres fruitiers et qui était conservateur de musée. Oui. Elle dit, il y a des moments, j'ai failli tout abandonner.
Virer sa cutie, ça ne se fait pas sans douleur.
Tout abandonner. Elle l'a fait parce qu'elle a eu un choc dans sa vie, qu'elle voulait tout changer, mais elle se rend compte que ça a été une grosse galère, quoi. Mais il y avait une motivation, donner un sens à sa vie, avoir une autre relation.
J'ai lu, je ne sais plus trop où, que sur 10 personnes qui virent carrément de changement, quoi, qui tournent totalement, des cadres informatiques qui deviennent potiers, des choses comme ça. Il y en a la moitié qui, dans les 3 ans, reviennent à leur métier initial.
Ouais, parce que ce n'est pas facile, hein, quand même.
Parce qu'il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. L'endroit où vous vous installez, l'exemple type, c'est un acteur fort connu qui jouait l'instituteur, une série qui était l'Instit. Et il s'était installé à Salers. Et il y avait... acheté un troupeau, il était très connu, il connaissait bien son boulot, et puis sa femme l'aidait, et puis un jour sa femme a voulu faire des chambres d'hôtes au village, et une nuit tout a flambé, la ferme, les chambres d'hôtes, etc., avec un commentaire sur le mur.
On veut pas de vous, quoi.
Rentre chez toi. Et il a obtempéré, il disait, dans les 15 jours, j'ai tout vendu. Et
ouais, je suis rentrée à Paris. C'était trop dur.
Et pourtant, il y était resté 30 ans.
Ouais. Ouais. Pour répondre à ce que tu disais, là, il y a un agriculteur conventionnel contrarié. Dominique Briand a fait exploser le cadre, à 48 ans, pour enfin mener sa ferme comme il l'entendait, en agriculture biologique. Depuis... De la méthanisation au maraîchage, il imagine et expérimente sans cesse dans cette forme d'urgence propre à ceux qui, à avoir perdu trop de temps, veulent rattraper celui qui reste pour réaliser leurs rêves. Bon, ça, c'est à épuiser dans le 41. Bon, voilà. Oui, il y a tout. Alors, des fois, ils sont tout seuls, des fois, ils sont en couple, des fois, il y a 3 sœurs qui sont... ils osent. Oui, il y en a qui craquent. Là, comme elle les a interrogés, j'aime pas trop interviewer, ils étaient encore là. Voilà. Évidemment, ceux qui ont abandonné, les a peut-être pas retrouvés. Non, c'est passionnant. On peut trouver ce livre chez les deux libraires blésois, donc la librairie Labbé à l'espace culturel, première vue sans problème.
On redemandera confirmation à Alice comment on peut commander.
Et si on peut le commander. Voilà. Je suis allée sur leur site, je n'ai pas trouvé.
Voilà, sur Internet.
Il faudrait qu'elle précise ça, oui.
C'est les éditions Six Pieds
Sur Terre. Six Pieds Sur Terre, voilà. Voilà, puis des très belles photos.
Oui, vraiment.
Très belles photos, donc ça nous aide à...
Bel ouvrage.
Il est très beau, leur livre. Une belle réussite à un prix tout à fait raisonnable, puisque c'est 20 euros.
Du vent dans les pages, sur Studio Zeph. Voilà, c'est la 8e émission donc du Vent dans les pages, l'avant-dernière. Anne, tu vas reprendre la parole parce qu'on continue cette émission avec encore un autre choix de ta part.
Bien sûr, hein. Alors là, on change, on vire totalement. Nous allons vers un polar.
Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de policier.
Oui, c'est exact. Alors, vous savez que j'aime bien commencer par le début. Donc, c'est le premier livre qu'a écrit Elisabeth George. Qui lui a donné, elle a eu tout de suite un grand prix de la littérature policière.
Plus que connu.
Donc, ceux qui ne connaissent pas Enquête dans le brouillard doivent se précipiter sur Enquête dans le brouillard. Pourquoi ? D'abord parce que l'histoire en elle-même, c'est qu'une jeune femme imagine un crime aussi glauque dans une atmosphère de petits villages perdus du nord de l'Angleterre aussi tordue, avec des personnages aussi tordus, c'est déjà énorme. Mais alors, surtout, ce qui est intéressant, c'est le couple d'enquêteurs. Alors, nous avons l'inspecteur Lindley, qui est Lord Ashferton dans le civil, diplômé d'Eton et d'Oxford, beau comme un dieu, tombeur de filles, toutes les qualités, historien, enfin bref. Et puis, en face, nous avons Barbara Havers. Alors Barbara Havers, elle est sergent, on se demande comment elle fait pour ne pas avoir été renvoyée comme simple agent dans la rue, tellement elle a le don de se faire des ennemis. Elle est taillée en grenadier, elle a trois poils sur le caillou. Quand elle se regarde dans une glace, elle a envie de briser les miroirs.
Oh, la pauvre.
Elle est persuadée que personne ne l'aime, ce qui est le cas. Mais alors, au lieu de se replier gentiment, elle se replie en hérisson. Donc, dès qu'on lui adresse la parole, immédiatement...
elle mord.
Voilà. Quand elle ne mord pas, c'est toutes les piques qui se redressent. Elle est habillée comme, une chiffe, mais... Elle a quand même quelque chose pour elle. Il y a chez elle une catastrophe personnelle, puisque à 10 ans, son petit frère est mort sur un lit d'hôpital. Personne ne venait le voir à part elle, qui avait 12 ans à l'époque, parce que les parents avaient décrété qu'on ne va pas voir un enfant à l'hôpital. D'abord, ça le gêne, et puis ensuite, nous, ça nous gêne. Donc, l'enfant avait une leucémie et il est mort de leucémie à l'hôpital. Elle a une rage depuis cette époque-là contre ses parents. Elle a réussi à les enfermer chez eux en permanence entre la télévision et la photo de ce petit garçon. Ils ont vieilli en devenant presque fous à cause de ça. Et son père est mort, sa mère est toujours là, mais alors un peu folle dingue. Persuadée qu'elle a assez d'argent pour s'offrir un voyage en Crète ou un voyage en Égypte. Donc, elle charge sa fille de lui apporter des documentations. Bon, c'est glauque, c'est sale. Elle habite dans une partie de Londres qui est la plus triste qui soit. Sinistre. Et cette femme qui est sinistre est d'une intelligence rare. Et elle a un don pour non pas résoudre forcément les énigmes, mais pour détecter... le mensonge. Et elle va faire une équipe absolument formidable avec Linley. Au début, elle déteste Linley, donc c'est le hérisson, parfait. Et lui la regarde comme si elle était transparente. Ça n'arrange pas les choses. Et puis finalement, l'un et l'autre vont attaquer ce fameux problème qui leur tombe sur les bras, qui est la mort d'un fermier dans une ferme du Nord, décapité visiblement par sa fille.
On reste à la campagne.
Dans la Bauge à cochons.
Ah oui, quelle instruction.
Voilà. Donc le livre en lui-même, enfin le roman policier lui-même est passionnant parce que finalement, bien entendu, la solution n'a rien à voir avec ce qu'on voit au départ. Mais c'est surtout ce fameux couple qui est passionnant et qu'on va suivre ensuite parce que Elisabeth George a continué à faire un certain nombre d'enquêtes avec ces personnages et maintenant on les connaît bien. Voilà, alors c'est chez Pocket,
ouais.
Ça s'appelle Enquête dans le brouillard et c'est d'Elisabeth George. C'est vieux mais on le trouve encore, je l'ai vu en librairie. Alors je précise qu'à l'abbé Grégoire, il faut le demander à l'accueil parce que tous les anciens sont rangés.
Sont en réserve,
sont
en magasin. Mais d'accord. Ils vont les chercher sans problème.
Mais voilà. Ouais. Hein, et en particulier, il y a... c'est édité avec trois autres sous une forme reliée. Quatre volumes pour un seul, mais en réserve.
Voilà. Très bien. Merci beaucoup, Anne. Avant d'attaquer le dernier roman, moi je propose qu'on fasse une petite pause musicale.
Ah oui,
on va faire ça avec François Béranger.
Réprimez-moi si vous voulez, à cause de mes cheveux trop longs, à cause de ma gueule arrogante, au passage des cœurs de poulet. Donnez-moi des coups de pied dans le fion, des coups de bidule dans les roustons. Puis enfin traitez-moi de tante, faites-moi une tête bien rasée. Comme les nazis en l'an 40, vous n'aurez pas ma fleur, celle qui me pousse à l'intérieur, l'homme cérébral et fleur de cœur, ma fleur, fleur de cœur, ma fleur. Vous êtes les plus forts, mais tous vous êtes morts, et je vous emmerde. Réprimez-moi si vous voulez, pour avoir essayé d'aimer. Sur les pelouses interdites hors des institutions sacrées, sacré nom de Dieu c'est meilleur, essayez pouvoir et puis dites, divorcez-moi, châtrez-moi le cœur et puis le reste aussi quel bonheur, et mangez-les avec des frites, vous n'aurez pas ma fleur, celle qui me pousse à l'intérieur, dans ses bras les fleurs de cœur, ma fleur, fleur de cœur, ma fleur. Vous êtes tous les plus forts, mais tous vous êtes morts, et je vous emmerde. Réprimez-moi si vous voulez, être différent c'est un crime. Être noir ou jaune ou pété, ne pas respecter votre frime. Avez-vous une fois seulement songé que la haine ça mine, alors que l'amour ça détend, que ça rend jeune et bon tout le temps. Mais bien sûr c'est un gros péché, vous n'aurez pas ma fleur, celle qui me pousse à l'intérieur. Dans ses bras les fleurs de cœur, ma fleur, fleur de cœur, ma fleur. Vous êtes les plus forts, mais tous vous êtes morts, et je vous emmerde. Vous n'aurez pas ma fleur, celle qui me pousse à l'intérieur. Dans ses bras les fleurs de cœur, ma fleur, fleur de cœur, ma fleur, fleur de cœur, ma fleur, fleur de cœur.
Et voilà, François Béranger, vous n'aurez pas ma fleur. Et voilà, on reste à la campagne, je vous dis. Alors oui, Catherine, alors non, on change, alors, on va plus à la campagne.
Peut-être, je suis dans un petit village, ça va se passer l'action dans un petit village perdu au fin fond de la Scandinavie,
ouais.
Peut-être la Norvège.
Ouais.
Alors en fait, je vais vous parler d'un roman que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça. C'est un roman de Steinbeck. Et c'est un roman qui ne ressemble pas vraiment à ce, à ce qu'on connaît, les grands romans de Steinbeck dont on parle le plus. Ça s'appelle Lune noire. Alors le titre d'origine c'est The Moon is Down. Et puis donc c'est la date de publication qui vous donnera quelques pistes. C'est que Steinbeck l'a publié en 1942. Ça a été publié donc en 1942. Sa première publication en français, c'est une traduction suisse en 1943. Ça s'appelait « Nuit sans lune ». Et puis, la publication, celle dont on peut se servir aujourd'hui, elle a été faite en France en 1995 et c'est la première publication complète, sans aucune coupure. Et c'est, je crois, la thèse. C'est chez la thèse, que je ne dise pas de bêtises. Non, la première publication, c'était Minuit. Et après, je ne sais pas qui l'a republié. Mais Minuit, c'est normal, puisque c'était un éditeur résistant.
Donc ce livre a été partiellement censuré.
Alors, censuré, et auto-censuré, en fait, d'une certaine façon. Alors, il a écrit ça en 1942, et ça se veut... C'est un petit roman très court, il doit faire 140 pages. Et moi, j'ai été très surprise, je n'avais pas d'a priori quand j'ai commencé à le lire. C'est une langue sobre, j'allais dire calme, je ne sais pas si on peut dire ça, très descriptive. Ça commence à 10h45, tout était terminé, la ville était occupée, les défenseurs étaient décimés et la guerre était finie. L'envahisseur avait soigneusement préparé cette campagne comme les plus importantes. Ce dimanche matin-là, le facteur et le policier étaient allés pêcher dans le bateau de M. Corel, le commerçant si populaire. Il leur avait prêté son voilier pour la journée. Le facteur et le policier se trouvaient à plusieurs miles en mer, lorsqu'ils virent le sombre petit bâtiment de transport les croiser tranquillement chargés de soldats, etc., etc. Donc un style très calme. Oui. Et il y a un côté très théâtral. Ça se passe dans une pièce, on a l'impression qu'il décrit la pièce, on voit
tout
le décor,
c'est
on voit
scénario.
Les personnages. Ah oui, c'est incroyable. Plus que scénario, je dirais une écriture théâtrale, vraiment.
D'accord.
Parce qu'il y a cette sorte d'unité. Pour résumer, donc, c'est les échos. C'est la Seconde Guerre mondiale, même si ce n'est pas toujours clairement dit. Et dans ce petit village de Scandinavie, on ne parlait pas trop de la guerre. Les échos n'arrivaient pas jusque-là. Et jusqu'au jour, donc, les premiers soldats nazis, je dis entre guillemets, puisque ce n'est pas dit aussi clairement que ça, apparaissent au sommet de la côte. Et là, c'est quoi ? C'est comme quel comportement on doit adopter ? Et en fait, on découvre tout doucement la résistance qui naît. Mais tout ça dans une sorte, c'est une violence feutrée. Ça avance à petits pas. Les personnages, il y a le maire, il y a entre guillemets le collabo, celui qui a aidé le fameux. Dès la première page, on parle de Monsieur Corel qui a prêté. Évidemment, il a prêté son bateau pour éloigner les gens. Voilà. Et lui, il s'est dit, c'est plus intéressant d'être copain avec les puissants, etc.
Marché noir.
Voilà. Oh, oui, c'est vraiment le collabo.
Le collabo.
Voilà. Et en fait, cette lune noire décrit donc cette invasion allemande dans un petit village et montrait comment la machine de guerre avance et que rien ne l'arrête. Et donc, ce petit village paisible va tomber dans les ténèbres totales. Et ces hommes qui envahissent, ce sont des hommes-machines. Un peu. Ils obéissent à un chef, ils exécutent, ils avancent. Et face à eux, on a une population qui est évidemment troublée. Alors, c'est même cocasse, les scènes. Il va recevoir les Allemands, le maire. Est-ce qu'il faut leur offrir un verre à boire? Ben non, peut-être pas, je ne sais pas. Enfin, ça a un côté opérette au début. On se dit, mais il n'est pas sérieux, Steinbeck. Et c'est tout doucement comme ça que ça approche. Et puis, tout d'un coup, petit à petit, la résistance s'organise, la colère monte. Et ils se battent pour préserver leur liberté. Et en fait, les rôles s'inversent. Les conquérants, malgré leurs mitraillettes, etc., se trouvent encerclés, un peu comme étouffés par la haine, le silence accusateur, la solitude, parce qu'ils n'ont plus de contact humain avec tous ces gens-là. Et donc, il y a un moment, il y a une citation, la réalité les oppresse. « Les mouches ont conquis le papier tu mouches ». Et puis, il cite aussi l'apologie de Socrate. Car je vous dis, vous aurez plus d'accusateurs qu'il y en a maintenant. Je pense que j'ai le passage, si je ne le perds pas comme d'habitude, parce que là, ça devient spécialisé.
Tu as pas mal de post-it. Hein, quand
mais j'en ai peut-être trop mis. Ouais, je reconnais que j'ai.
C'est ça le problème. Parce que
J'ai une tendance à... Ben à chaque fois, je dis « Oh, ça, c'est bien. Oh, puis ça, c'est bien. » Voilà. Vous souvenez-vous... Alors ça, c'est les Français. Les Scandinaves qui discutent entre eux. Mais voilà. Vous vous souvenez-vous de l'apologie de Socrate qu'on étudie à l'école? Vous souvenez-vous que Socrate déclare, quelqu'un dira « Et tu n'as pas honte, Socrate, d'une vie qui te conduit à une fin prématurée ?» À celui-là, je peux répondre « Tu te trompes. » Un homme juste en tout ne devrait pas calculer les chances de vivre ou de mourir. Il devrait seulement considérer s'il a bien ou mal agi. S'il a tenu le rôle d'un homme bon ou d'un homme mauvais. Je ne pense pas que votre citation soit tout à fait correcte. Vous n'avez jamais été un très bon étudiant. Vous étiez également trompé dans la dénonciation. Orden gloussa. Orden, c'est le maire. Vous vous souvenez de ça? Oui, répondit Winter avec ardeur. Je m'en souviens bien. Etc., etc. Donc, il y a tous ces échanges et sur cette morale de l'histoire. C'est pour ça que je pense que Steinbeck est aussi discret sur la guerre elle-même, parce que c'est vraiment une sorte de...
Parabole,
un manifeste de résistance, donc destiné au peuple occupé, et une sorte de reconnaissance de la résistance. Et puis aussi, c'est... En fin de compte, Steinbeck dit dans le livre que conquérir un territoire n'est pas conquérir un peuple. La structure est curieuse parce que tous les chapitres sont structurés de la même façon. C'est une sorte de description globale, comme j'ai fait au début, assez froide de la ville. Puis, les réactions des personnages. Voilà, et ça avance. Et tandis que, en fin de compte, la peur gagne les Allemands parce qu'ils sont étonnés de cette sorte de résistance. Donc, ça les pousse à fusiller. Parce qu'évidemment, il y a des attaques et tout. Puis s'ils se mettent à fusiller, eh bien, la détermination des citadins asservis s'accroît. Voilà. Et du début à la fin, on a ces événements qui apparaissent comme une sorte de logique implacable, où celui qui est écrasé, plus on veut l'écraser, plus on veut le soumettre, et plus, en fait, il est pugnace. Mmh. Mais d'une pugnacité qui n'est pas comme celui qui vient avec sa mitraillette. C'est-à-dire qu'à la fin, on voit le moindre Allemand, il se dit « Mais celui-là, il va peut-être me tuer. »
Je veux dire, c'est ce qui se passe.
C'est une résistance. C'est pas des militaires en armes. Mmh. Donc, on voit cette sorte de... À un autre moment, il dit... c'est toujours par rapport aux écrits de Socrate, hein, cette résistance inéluctable... Je vous prophétise à vous qui êtes mes meurtriers qu'aussitôt après mon départ, un châtiment beaucoup plus sévère que celui que vous m'infligez vous attendra sûrement. Donc il peut citer tel quel, tout résistant aurait pu dire ça avant d'être fusillé. Enfin, quand pour le meilleur moment il a été fusillé, quand il n'est pas mort sous la torture. Voilà, donc c'est vraiment l'idée d'un manifeste, un manifeste des peuples asservis, et on peut même, j'allais dire, s'en servir après, parce que la décolonisation, ça a été ça aussi. Dans l'histoire des occupations, il y a ce qui est le plus dangereux, c'est le mépris des peuples. C'est-à-dire, si on n'essaie pas de laisser la fierté au peuple, eh bien, il va réagir comme ça. C'est-à-dire, humilier les gens ne fait que les exciter à vouloir se battre.
C'est même très actuel.
Bon, tu peux le mettre dans tout le temps. Oui, c'est pour ça que c'est pour ça que ça m'a. Enfin, j'ai trouvé ça. Ça a été écrit à un moment, lui, bon, américain, hein, ouais. Donc 42, ça veut, voilà, ça veut dire quelque chose. Mais oui, je pense qu'il a été assez flou, peut-être par prudence, mais aussi pour bien montrer que c'est un manifeste qui peut servir à peu près tout le temps.
Mais c'est vrai que c'est un roman de Steinbeck qu'on
ne connaît pas.
Moi, je le connais. Je veux dire, voilà, il y a des choses, on a entendu.
Assez inconnu. Ouais.
Bah, je sais pas, des souris et des hommes, ouais. Ou alors ils ont à l'est d'Éden, les raisins de la colère. En plus, tout a été adapté. Je ne sais même pas s'il y a une adaptation. Je ne crois pas.
Donc, on va pousser les recherches.
Voilà. Donc, c'est quand même assez surprenant. Ça se lit très vite.
Ouais.
Ça se lit très, très vite. Mais c'est. Ça pousse
à
réfléchir. Alors là, je l'ai, celui que j'ai en main, alors c'est peut-être pas marqué pour les gens qui sont fatigués. C'est bien. Là, c'est une édition gros caractère. C'est Ferriane, donc qui se trouve à la bibliothèque, je pense, Abbé Grégoire, j'imagine, ouais, parce que cette collection plus importante. Et je voulais vérifier. Mais
sinon, ça. Tu disais que c'était aux éditions Lattès.
Alors, j'ai un doute. Parce que en 40, ça a été publié pendant la guerre sous le manteau par les éditions Minuit.
Mm-hmm. Voilà.
Mais après, la réédition. Si, c'est ça. En 95, édition Jean-Claude Lattès. Voilà. Donc, 95. Donc, il y a quand même eu un grand trou entre 43 et 95.
Merci Catherine.
Donc Lune noire, oui. De John Steinbeck.
Exactement. Anne, il nous reste, il nous reste exactement 7 minutes.
Oui.
Hein, ça peut aller pour ton choix.
Je vais vous parler d'un livre qui est actuellement en lecture pour le prix du roman historique, des rendez-vous de l'histoire. Alors, on a chacun une série de livres à lire. Il y en a des bons, il y en a des moins bons, il y en a des excellents. Je garde l'excellent pour la prochaine session. Mm-hmm. Mais celui-là, je l'ai trouvé très bon. Alors, ça s'appelle « Une vieille colère » de Michel Maisonneuve. La maison d'édition, c'est Gaïa, je ne connaissais pas. Et voilà, c'est le narrateur est un jeune homme de 15 ans. Qui vit avec ses grands-parents parce que son père a disparu et sa mère s'est remariée et partie vivre ailleurs. Et un jour, son grand-père fait une attaque, se retrouve à l'hôpital. Et il sort du coma et l'infirmière lui dit « Voyons, monsieur Viterbo, venez vous asseoir. Le roi est soudé à son trône. » Elle lui secoue gentiment l'épaule. La soupe va refroidir. Le bloc de racines remue. Le tout se redresse. La bouche se desserre, mais il n'en sort rien. Il a un air bizarre, perdu. « Monsieur Viterbo, s'impatiente la dame. « C'est pas mon nom, ça, fait-il dans un murmure. « Mais enfin, monsieur Viterbo, non, c'est pas mon nom. Moi, je m'appelle Della Croce. » Il a prononcé ce mot à l'italienne, en détachant bien les syllabes. « Della Croce. » « Oh, et puis après tout, si vous ne voulez pas manger, c'est votre affaire, » dit la femme en blouse bleue. Alors, il s'écoule un certain nombre et il termine en disant, en regardant sa main, il s'arrête sur son doigt coupé, il a un doigt coupé à la phalange. « Non, » fit-il en fixant son moignon, « mon nom, c'est Giulio Della Croce. » Alors, naturellement, on raconte ça au petit jeune homme quand il vient voir son grand-père. Et il va voir sa grand-mère et puis lui dit « Qu'est-ce que c'est que cette histoire ?» Et c'est à partir de là que commence le roman. Il monte une enquête parce que la grand-mère ne veut rien dire, lui dit de s'occuper de ses affaires, que ça ne le regarde pas. Et il découvre, au bout d'une assez longue enquête, que son grand-père a été dans les troupes fascistes de Mussolini en Libye et que le moignon coupé date de cette époque-là. Qu'il avait un grand ami et que cet ami a été tué au moment d'une attaque contre des rebelles libyens. Et c'est la raison pour laquelle, une fois venu en France et réfugié en même temps que cette famille, ces deux familles ne se parlent pas. Voilà, alors c'est très intéressant dans la mesure où c'est une histoire qu'on ne connaît pas. Mussolini, on connaît le personnage, bien entendu, mais la vie sous Mussolini, on ne connaît pas. Comment se passait la vie dans les armées mussoliniennes, on ne connaît pas. Et Dieu sait que c'était vraiment aussi terrible que chez les nazis. Et puis la vie des réfugiés en France et leur inadaptation à la vie française. D'un côté, ils sont extrêmement reconnaissants à la France de les avoir accueillis. Il ne faut surtout pas jurer, il ne faut surtout pas cracher sur le drapeau, il faut être bien obéissant, etc. Mais en même temps, on reste entre soi. C'est très, très intéressant. Voilà, ça s'appelle Une vieille colère. En plus, c'est bien écrit. Ça, moi, j'aime bien. De Michel Maisonneuve.
C'est vrai, c'est mieux.
C'est mieux.
Oui, mais alors là, pour moi, je reconnais que...
Et puis, on sait ton niveau, on connaît ton niveau d'exigence.
Oh, c'est gentil.
À ce niveau-là. Donc,
aux éditions Gaïa. Voilà, et il est dès maintenant à la bibliothèque et vous le verrez sur les étals au rendez-vous de l'histoire.
Eh bien, voilà. On arrive à la fin de cette émission. Merci beaucoup, Anne et Catherine. On se retrouve le mois prochain pour la dernière émission de l'année. Voilà, avant de passer à la grille d'été sur Studio Zef. Donc, je vous rappelle que cette émission est en podcast sur studiozef.fr. Je vous souhaite une excellente après-midi et à très bientôt à la radio.
Au revoir.
Au revoir.
out of syndrome. Lost my cup and now my feet. I'm standing on the landing. There's no there but me. That's where you'll find me. Looking out on the distant sea. There's a song on the lips. Everybody, there's a smile all around the room. There's conversation overflowing. But I sit here with the blues. All its people. The piano man has caught the last bus home. The old bartender just collapsed in the corner.